Ah ouais donc, ah ouais donc, bon anniversaire, le temps passera comme la rivière qui coule là-bas. Bon anniversaire, le temps te laissera, que le nouveau front qui t'embellira. Ah ouais donc!
Tabarouette, merci beaucoup.
T'aimes-tu ça le gâteau au chocolat?
C'est pas joyeux.
C'est pas grave, c'est moi qui vais manger, anyway. Ouais. Enfin, c'est le dépanneur du coin qui fait affaire avec le costaud. Hey, bonne fête, ouais, Rondo.
Merci beaucoup, c'est grandement apprécié. Je suis content de faire ça avec toi aujourd'hui, cette, comme tu dis, journée d'anniversaire, 10e épisode du podcast Les Buts Remplis. On a un gros épisode devant nous, Ben. On va recevoir Pierre Arsenault dans les prochaines secondes. Josué Pelé aussi va se joindre à nous. On va parler d'Abraham Taureau, qui est un retour fracassant, c'est le moins qu'on puisse dire dans les ligues majeures. Puis on va parler aussi des Blue Jays de Toronto avec l'excellent George Springer qui devrait rejoindre l'équipe bientôt. Donc, on va regarder tout ça. C'était partant, Ben. On amène Pierre avec nous à l'instant.
Ben oui, envoyez donc!
Pierre Arsenault, bonjour!
Bonjour, ça va bien?
Ben oui, ça va très bien.
En passant, bonne fête!
Hey, merci!
Je ne savais pas, mais c'est l'anniversaire aussi. Ben, je savais pour mon garçon, c'est l'anniversaire à mon garçon Nicolas aujourd'hui qui a 20
ans. Ah, ben, tabarnouche.
Ah, ben, bonne fête, Nicolas.
Bon anniversaire, Nicolas.
Ben oui.
Hey, Pierre, ma première question, là, parce que j'ai vu ça popper quand que j'ai dit à des gens que tu étais l'invité. Dis, ah, tu vas recevoir l'astronaute. Là, l'astronaute, là, c'était ton surnom à l'époque. J'imagine que ça vient de Arsenault, que les gars n'étaient pas capables de prononcer. Ils ont dit Arsenault, puis c'est devenu astronaute, c'est ça?
Oui, parce que c'est souvent des partisans qui voyaient des... surtout aux États-Unis, qui voyaient mon nom dans le dos. Puis, je sais pas, c'était difficile pour eux de lire toutes les lettres, alors ils décidaient que c'était astronaute.
OK.
Ça a resté un peu. Et comme tous les francophones dans le baseball, le surnom que j'ai eu le plus souvent, c'est Frenchy. Ça, c'est okay. Des...
classique.
Je pense que tout... Oui, c'est classique, exactement.
Et là, Frenchy, yeah, en ce moment, il est avec Équipe Québec. Donc là, présentement, tu es dans le coin de Cleveland. Hein? Vous avez voyagé hier, vous êtes présentement dans le coin de Cleveland. Peux-tu me parler juste un peu du début de la saison? Là, vous avez une fiche de 11-12, mais c'est quand même bon pour le premier rang de la division, ce qui est super important. Là, devant, je pense que vous êtes égal avec les Boulders de New York, mais c'est ça qui va déterminer si on fait les séries. Puis... En fait, l'objectif de ce que me disait Pat Calabrini, c'était de se garder à flot en attendant peut-être le retour au Québec puis être en mesure de compétitionner. Donc, la fiche de 11-12 est quand même bien, là, malgré que vous traversez une séquence de 3 défaites, je crois.
Oui, on a eu un voyage difficile à Florence, au Kentucky, en fin de semaine. Je pense que c'était la meilleure équipe qu'on a affrontée depuis le début de la saison. Et on a eu des jeunes lanceurs qui ont de la difficulté. On a eu beaucoup de buts sur balle, des frappeurs atteints, des mauvais lancers dans des mauvais moments dans le match. Et je pense que l'équipe a trouvé ça difficile. Et il y a toujours l'aspect fatigue. Hein? Je pense qu'on peut commencer un peu à parler de l'aspect fatigue avec tout le voyagement. C'est pas un horaire qui est facile. Mais par contre, je dois lever mon chapeau à tous les joueurs. C'est des gars qui se présentent à tous les jours. C'est pas facile. On se promène en autobus partout. Il y a des voyages de 8 heures, 10 heures, 11 heures sur la route. Et à tous les jours, les joueurs se présentent et on n'a jamais besoin de leur donner des coups de pied dans le derrière. C'est des gars qui sont fiers. Et je pense que c'est la première chose que j'ai réalisée en arrivant avec l'équipe, dès le camp d'entraînement à Albany, c'est que les gars qui sont avec nous, c'est des passionnés de baseball. Ils ont toujours le rêve de peut-être aller plus loin. Des pinottes là, d'un sens dans cette ligue-là. Alors, moi, je suis émerveillé de voir à quel point ces joueurs-là se donnent cœur et âme et à tous les jours, ils travaillent. Et puis, des fois, c'est peut-être juste un peu de manque de profondeur. On a beaucoup de joueurs recrues, Alors, ils apprennent sur le tas et c'est ce que Pat et moi, on tente de faire, c'est de leur donner des bonnes habitudes de travail. Et puis, comme tu as mentionné, souhaiter que lorsqu'on revienne au Québec, on retrouve nos ailes et puis qu'on commence à vraiment prendre du poil de la bête et puis faire des dommages dans notre division.
Moi, ouais, Pierre, je voulais que tu me parles de ton rôle avec, en fond, l'équipe Québec, les capitales équipe Québec, parce que, bon, tu as été un peu responsable de l'enclos de relève avec les Expos, tu as fait un peu le même travail avec les Marlins, tu as aussi été dépisteur avec les Marlins, et là, maintenant, c'est un peu un retour au bercail pour toi. C'est quoi ton rôle avec, avec Patrick, justement, là, depuis ton arrivée avec l'équipe Québec?
Bien, je tente d'appuyer le plus possible Patrick. Je trouve que Patrick, c'est un très bon entraîneur. Il communique très bien avec ses joueurs et je pense qu'ensemble, on est capable de former un bon duo dans le sens que moi, j'apporte peut-être quelque chose au point de vue des lanceurs que lui a peut-être plus besoin d'aide. Comme moi, j'ai besoin de plus d'aide peut-être avec les frappeurs et c'est ce que Patrick, sa spécialité. Alors, je pense qu'on est capable de travailler ensemble et d'amener pas mal de... On est capable de couvrir beaucoup de sujets avec les jeunes joueurs et je pense que l'expérience que j'ai eue comme dépisteur m'aide aussi avec les joueurs, à leur faire comprendre peut-être exactement ce qu'un dépisteur professionnel regarde ou recherche. Parce que cette année, il faut le dire, avec la Ligue Frontier, qui est associée avec le, qui est partenaire avec le baseball majeur, plusieurs joueurs ont déjà quitté la Ligue pour aller dans le baseball affilié. Alors, il y a des dépisteurs, j'ai vu des dépisteurs que je connais depuis le début de la saison qui se présentent au stade et qui regardent les joueurs. Alors, moi, je suis capable de dire à nos joueurs exactement ce que ces gars-là recherchent. Parce que pendant 10 ans, j'ai fait ce métier-là et je sais c'est quoi qu'ils recherchent. Alors, je pense qu'on apporte, on a une complicité, Pat et moi. Moi, j'adore travailler avec lui. On communique extrêmement bien. Et je pense que, tu sais, c'est le genre de gars, d'après moi, qui devrait peut-être éventuellement être instructeur dans le baseball professionnel, quelque part avec une équipe affiliée.
Et là, Pierre, avec la pandémie, Pierre, tu parlais... je présume que c'est peut-être pas le scénario rêvé de te retrouver aux États-Unis sans pouvoir nécessairement revenir au Québec avant on ne sait pas quand. Là.
Non, ben le sait pas quand, j'espère que c'est le 23 juillet, disons, mais non, c'est pas. Honnêtement, c'est pas ce que je pensais que j'étais pour être impliqué au début de la saison, au mois de janvier, au mois de février. Personne ne pensait qu'on était pour commencer aux États-Unis et rester aux États-Unis aussi longtemps. C'est pas le scénario idéal, mais comme je vous ai dit, je pense qu'il m'aide, c'est. Travailler avec Patrick, avec notre administrateur Jean, Gabi, qui est notre thérapeute. C'est des personnes extraordinaires, passionnées. Et le fait que les joueurs sont tellement dévoués à la cause, ça aide justement d'être plus loin de la maison. Et je suis très, très, très chanceux d'avoir une épouse et des enfants qui comprennent. Et ça veut dire que cet hiver, là, je leur en dois une maudite à ma famille. Pas à peu près. Pas à peu près.
Hey, juste au niveau technique, Sylvain, est-ce qu'il y a juste moi que l'image de Pierre est gelée?
Non, ça va.
OK, ça va, parce que moi, elle est gelée dans une position assez compromettante. Fait que, c'est parfait.
C'est peut-être comme le ça. Wi-Fi aux États-Unis qui est plus difficile.
Parce que moi, Pierre, je vois bien, vous bougez bien.
Excellent. Okay. Yes, sir, yes, sir. Pierre, tu parlais de la passion des joueurs, tu sais, d'équipe Québec, mais tu sais, moi, c'est ta passion comme entraîneur, là, tu sais, que tu te retrouves aux États-Unis à faire le tour, à te retrouver un peu dans les mêmes positions que tu étais à l'époque des ligues mineures et tout. Puis je trouve tellement que ça te prend. Faut que tu sois un gars passionné, tu sais, puis t'aimes le baseball, tu sais, pour faire ça. Puis, tu sais, j'admire ça. Puis, tu sais, des anecdotes que tu as eues avec les Expos, des anecdotes que tu as eues avec les Marlins, t'en as tellement, c'est incroyable. Mais il y en a une que tu m'as racontée plus tôt cette année, puis j'ai dit à Sylvain, écoute, si on reçoit l'astronaute au podcast, il faut absolument qu'il me parle de la fois qu'avec les Marlins, tu avais failli être receveur dans un match, un peu comme David Harris, là, le chauffeur de Zamboni qui avait gaulé. Toi, ça a failli t'arriver. Résume-nous un peu cette journée folle. Là.
Ah, c'était une journée qui était... qui a commencé comme toutes les autres, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que la veille, Mike Redmond, qui était notre receveur partant, se fait atteindre sur la main par un lancer, et puis au stade, il prend une radiographie, il y a pas de... son os n'est pas brisé, c'est juste un bleu, disons, là, une contusion, mais quand il est arrivé au stade le lendemain, il avait vraiment mal. Il n'était pas capable de plier sa main. Alors, on ne voulait pas le mettre sur la liste des joueurs blessés parce qu'on savait que c'était juste une question peut-être de quelques jours. Et on avait Ramon Castro, qui était notre receveur auxiliaire. Et lui, tout d'un coup, lorsqu'il est arrivé au stade, il a décidé d'aller voir le soigneur et puis lui dire qu'il avait mal au pied et qu'il ne pensait pas être capable de jouer. Alors là, tout s'est mis en marche. Moi, je ne le savais pas. Moi, j'ai fait ma routine quotidienne que je faisais à l'époque. J'allais courir pendant 8 km à tous les jours autour du stade. Je me gardais en forme en même temps. Et puis, lorsque la pratique au bâton a commencé, j'étais au champ extérieur et Jack McKeon, qui était notre gérant, que j'adore, un homme, on parle de passion de baseball, ça, c'est un homme qui a tout fait sur un terrain. Et puis, il est venu me voir et puis il m'a tout simplement dit, il dit, Pierre, il dit, si je te demandais, es-tu capable d'agir comme receveur ce soir pour Brad Penny dans un match de baseball majeur, serais-tu capable de faire le travail? Fait que là, j'ai regardé Jack, j'ai dit, oui. Je serais capable d'agir comme receveur, mais je serais pas capable de frapper. J'ai pas pris un bâton depuis 20 ans. Il dit, non, je m'en fous de ton coup de bâton. Moi, ce que je veux savoir, c'est, es-tu capable d'agir comme receveur dans un match des Ligues majeures?
Juste pour mettre les gens en contexte, là, c'était environ à quelle année? Puis tu avais quel âge à ce moment-là?
Ça, c'était en 2004. C'était en 2004, alors j'avais 40 ans.
Wow!
Mais j'étais encore en forme, puis j'avais encore un bon bras, puis naturellement, j'étais capable d'agir comme receveur. Je le faisais à tous les jours. Mais, tu sais, au point de vue de coup de bâton, ça, c'est une chose que j'avais pas fait. Alors, tu sais, on est en 2004, l'année après avoir remporté la Série mondiale, et Jack me demande ça, puis là, il me dit, Pierre, il dit, notre receveur auxiliaire, il est arrivé, puis il a mal au pied. Puis si, après la pratique au bâton, il est pas capable de jouer... toute la paperasse est faite, c'est toi qui vas être notre receveur pour le match ce soir contre les Reds de Cincinnati.
Tu devais capoter.
Oui, mais la première pensée que j'ai eue, puis ça, je vous le jure, c'était pas être nerveux pour un match potentiel, c'était pourquoi je suis allé courir 8 km aujourd'hui. Sous le soleil de la Floride, je me suis dit, oh, misère, j'espère que je tomberai pas sans connaissance pendant la troisième ou quatrième manche d'un match, tu sais, déshydraté au point où, avec la nervosité. Alors, ça reste comme ça. Fait que là, j'ai commencé à me préparer. Tu sais, il y a des gars qui sont allés me chercher des bâtons. Il y a des gars qui, tu sais, j'avais pas de crampons non plus. Tu sais, j'avais pas de souliers à crampons. Moi, j'avais des, ce qu'on appelle des turf shoes. Fait que tout était en place. Et puis, après la pratique au bâton, une demi-heure avant le match, Ramon Castro a décidé qu'il était pour jouer. Alors, une fois qu'il a décidé qu'il était pour jouer, moi, je ne peux pas être activé parce qu'on avait déjà 25 joueurs sous contrat. Et lorsque le match commence, tu ne peux pas rajouter un joueur. Alors, mon rêve de jouer un match était terminé. Mais le pire dans cette histoire, c'est qu'après la première manche, Ramon Castro décide qu'il a trop mal au pied, il ne peut plus jouer.
Oh.
Fait que c'est l'ancien des Expos, Mike Mordecai, qui est un joueur à tout faire, mais ce n'est pas un receveur. Oh. Il était obligé d'agir comme receveur. Puis on a joué, je pense, une manche supplémentaire ou deux manches supplémentaires. Alors, il était obligé de catcher comme 10 manches. Et pour lui, c'était pas un problème parce qu'il était capable d'agir comme receveur de temps à autre.
Mm-hmm.
Il a joué un match complet dans les lignes majeures. Et ça a été la dernière fois que Ramon Castro a porté l'uniforme des Marlins ce soir-là. Il n'est jamais revenu. Les vétérans étaient tellement en maudit contre ce gars-là qu'il n'a pas été capable de continuer le match et de vraiment là, aider l'équipe à surmonter l'obstacle d'avoir un receveur blessé.
Fait que toi, tu n'as pas de poster ou de carte de Ramon Castro dans ton bureau, hein, à la maison?
Non, surtout que le gars, là, c'était un receveur auxiliaire qui faisait un bon salaire, qui était bien traité. Qui était paresseux. Il venait jamais dans l'enclos. Il fallait que je l'appelle si on avait deux lanceurs qui s'étaient chauffés. C'était le genre de joueur là, qu'une fois qu'il a quitté l'organisation, c'était pas un problème. Puis pourtant, il avait un bon potentiel. Il avait un bras incroyable, beaucoup de puissance au bâton, mais je pense que le cœur n'était pas vraiment là.
C'est pour ça qu'il n'a jamais fait une longue carrière non plus.
Non, exactement. Exactement. Fait que, au lieu d'être à David Letterman ou... à toutes les émissions du soir, ben, j'ai accompli mon rôle dans l'enclos comme à tous les autres soirs. Alors, c'est une soirée qui a été fun, mais c'est la vie.
Pierre, moi,
hey, Sylvain, on a...
Non, ben attends, puis, Ben, avant... Oui, mais avant de rentrer au jouet, je veux juste poser une petite question à Pierre, parce que, bon, tu sais, il y a un éléphant dans la pièce là, en ce moment dans le baseball majeur. Là, toi, tu côtoies des lanceurs depuis nombreuses années. Et là, tu as le substance là, des fameuses substances qui permettent une meilleure grippe sur la balle et tout ça. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Est-ce que le baseball majeur agit de la bonne façon? Parce que là, à partir d'aujourd'hui, dans le fond, les coupables sont suspendus pour une dizaine de jours avec salaire. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce dossier-là?
Moi, je pense, j'aurais aimé qu'ils prennent la décision pendant la saison morte et puis qu'ils avertissent les lanceurs, et puis tout le monde le savait, qu'ils avertissent les lanceurs que hey, c'est fini, là. Moi, d'après moi, les lanceurs devraient avoir le droit de se servir pas mal la même chose que les frappeurs ont le droit de se servir dans le cercle des attentes. Tu sais, dans le cercle d'attente où ça soit un peu de pine tar, que ça soit de la résine. Tu sais, ils pourraient se servir de ces choses-là. Mais là, c'est rendu qu'ils se servent. J'ai vu c'est quoi exactement le Spider Tack, parce qu'on a des gars ici qui l'avaient. Et c'est incroyable. C'est une substance qui colle après tout. Et les balles viennent toutes collantes. Et puis, je peux voir pourquoi qu'il y a une meilleure grippe. Mais je pense qu'il aurait dû faire ça pendant la saison morte. Mais il y a des règlements. Et je pense que la Ligue aurait dû mettre ses culottes il y a plusieurs saisons et justement d'empêcher certaines substances d'être utilisées. Mais là, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de problèmes à appliquer le fameux règlement, parce qu'il y a des joueurs qui vont dire « Ben non, j'ai juste mis la résine, ou j'ai mis ci, ou j'ai mis ça, puis il n'y a personne qui va admettre qu'ils ont mis du Spider Tack. » Ben, c'est vraiment collant. C'est vraiment une substance.
Ah oui.
Puis, ça avantage les lanceurs et le fameux spin rate.
Ouais.
Le fameux spin rate. C'est triste à dire, mais c'est rendu que les lanceurs ont plus de fierté avec leur vélocité et avec leur spin rate que de devenir un bon lanceur. Puis ça, je le vois dans notre ligue à tous les jours. Je pense que c'est l'avantage que j'ai comme dépisteur, que j'essaie d'expliquer à nos lanceurs que, je m'excuse, mais à un certain moment, c'est plus la vélocité ou le spin rate qui compte, c'est savoir comment lancer. C'est bien beau avoir lancé 97 000 à l'heure, d'avoir un spin rate de 2600, mais si tu n'es pas capable de lancer des prises, tu n'aideras pas ton équipe.
Dans ton rôle là, avec les Expos et les Marlins, là, as-tu déjà été le chef cuisinier, le gars qui mélangeait la résine avec la crème solaire, non?
Non, ben, je n'aimais pas ça, avoir ça sur mes pieds. Ce n'était pas mon travail, mais je peux dire que dans notre sac qu'on amenait dans l'enclos avec les balles et tout ça, on avait tous les produits que les frappeurs avaient aussi, là, et comme tu dis, il y avait la crème solaire, la résine, il y avait juste un peu de pine tar, là, qu'ils appellent le pine tar, qu'ils mettent sur le bâton, qui est liquide. Mm-hmm. Et c'est rien comparativement à ce que les joueurs ont aujourd'hui, là. Tu sais, le Spider Tack, ça a été fait pour les hommes forts, tu sais, les compétitions d'hommes forts, là, les gars qui prennent les grosses pierres pour que ça colle après les mains. Et là, je peux comprendre comment ça colle après les mains. Alors, je pense que oui, c'est bon d'avoir un règlement, mais je pense que ça aurait dû être fait avant. Parce que le règlement est dans le livre aussi. Tu sais, c'est pas quelque chose de nouveau. Les lanceurs n'ont pas le droit d'utiliser certaines substances.
De qui le joueur des Expos qui était particulièrement fort, ces substances?
Dans ce temps-là, on n'avait pas vraiment... Tu sais, il y en a qui en mettaient un petit peu là, sur leurs gants. Tu sais, c'était pas là... C'était pas évident. Là. C'était pas des gars qui en mettaient dans le cou comme... Le lanceur des Yankees, ils en mettaient pas, ils beurraient pas ça épais sur leur gants ou sur leur ceinture. C'est juste pour dire qu'il y en avait un peu. Mais je me souviens pas de joueurs que c'était excessif. Je me souviens, souvenez-vous de Pascual Pérez?
Ouais, oui.
Mais Pascual, c'était des produits qui se mettaient dans les cheveux.
Okay.
C'est comme un genre de gel qui se mettait dans les cheveux puis il servait de ça sur la balle. Mais à part ça, honnêtement, je me souviens pas de gars qui avait des substances incroyables où tu te dis, Colin, il va se faire prendre avec ça, puis il va être suspendu.
C'était le secret de sa balle arc-en-ciel, Pascual.
Exactement. un peu la balle mouillée, mais disons avec un liquide différent que les arbitres ne voulaient pas aller toucher les cheveux. Je pense qu'ils avaient peur d'y toucher pour voir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans.
Écoute, ton passé, là, il est tellement fascinant. Il y a juste une autre histoire, tu sais, parce qu'on a parlé de ton passage chez les Marlins. Tu sais, t'as gagné la Série mondiale, là, pareil, là, avec eux, là. Puis, ce qui avait marqué, entre autres, votre victoire à la Série mondiale, c'était en demi-finale, l'histoire avec Steve Bartman puis les Cubs de Chicago. C'était bien cette année-là. Fait que j'imagine que tu l'avais vécu d'une certaine manière, toi. En plus, tu connaissais Moises.
Ben oui. Nous autres, on se demandait. Nous autres, faut-tu te situer au stade au Wrigley Field où c'est arrivé. C'était tout près de l'enclos des releveurs des Cubs. Puis nous autres, on était à l'autre côté du terrain. Alors, c'est pour nous. Puis il n'y avait pas de reprise. Il n'y avait pas de tableau indicateur avec des reprises dans ce temps-là au Wrigley Field. Alors, pour nous, c'était difficile de savoir est-ce que oui, Bartman a interféré avec Moises Salou ou oui ou non. On ne savait pas. Mais c'est quand on a commencé à entendre les partisans crier, tu sais, ils ont commencé à le traiter de asshole. On s'est dit, oh, misère, ça commence à tourner au vinaigre. Et puis, le pauvre gars s'est assis la tête entre les deux jambes jusqu'à temps que la sécurité vienne le chercher. Et c'est là qu'on a réalisé, et misère, que la fameuse chèvre des Chicago est apparue ce soir-là. Et comme tu te souviens, tout de suite après, Alex Gonzalez avait une balle routine, peut-être un double jeu, qui a complètement bousillé entre ses deux jambes. Et personne ne parle de ce jeu-là, mais tout le monde parle de Bartman. Et s'il avait réalisé le jeu, tout le monde aurait oublié Bartman. Et ce que je me souviens, c'est que mon épouse était avec moi ce soir-là. Et après le match, quand on a remporté la victoire, j'ai dit à Tony, écoute Tony, ce gars-là, là, sa vie ne sera plus jamais la même. Puis là, elle me disait, ben non, c'est juste un match de baseball. J'ai dit, non. Puis quand on s'est réveillé le lendemain matin, il y avait des hélicoptères autour de sa maison. C'est là qu'on a réalisé l'ampleur de l'événement. Et puis encore aujourd'hui, j'adore regarder le reportage d'ESPN. Je pense qu'ils ont fait un film 30 and 30.
Sur changer de nom, Bartman. Changer de nom, changer d'identité.
Mais c'était incroyable. Tout a basculé tout de suite après ça. Et puis, on parlait de Mike Mordecai plus tôt. Ben, Mike Mordecai a frappé un gros double et on a marqué 8 points. Et le pire, c'est qu'il y avait un 7e match après ça. Et il y avait Kerry Wood qui lançait. Puis cette année-là, je pense que Pryor et Wood, back-to-back,
ouais, c'était dominant à ce moment-là.
Les deux n'avaient jamais perdu 2 matchs consécutifs. Et encore une fois, le lendemain, les Cubs gagnaient. Kerry Wood avait même frappé un circuit. Et les Marlins, ben, qu'est-ce qui arrive? On marque des points. Josh Beckett vient terminer le match. Lui, il a été incroyable dans les séries de championnat, dans la série mondiale. Et ça m'a permis d'avoir une bague et d'avoir une expérience qui était vraiment incroyable que ma famille et moi, on a eu la chance de vivre ensemble.
Ramon Castro, il était-tu déjà avec vous autres? Il a-tu sa bague, lui, le chien? Ouais, non, ouais. Il est arrivé l'année d'après.
Non, disons qu'avec Pudge Rodriguez comme receveur, je pense qu'on n'avait pas besoin de Ramon Castro. Surtout Pudge, ça a été la bougie d'allumage la deuxième moitié de saison. Ça avait mal commencé pour lui avec les Marlins. Il y avait un peu un début de saison difficile. Il y avait une blessure, il y avait un petit accrochage avec le gérant. Mais au mois de mai, par la suite, il y avait eu un party d'équipe chez lui où tout le monde, toutes les familles étaient invitées. Puis on dirait qu'après ça, il a réalisé le rôle qu'il avait au sein de l'équipe, une jeune équipe. Et puis, il a vraiment démontré du leadership et il a été excellent dans cette série-là contre les Cubs et contre les Yankees. Et sans lui, on ne gagne pas la Série mondiale. Alors, c'était un contrat d'un an et les deux parties ont été très, très, très heureux la façon que ça s'est réalisé au mois d'octobre au Yankee Stadium en plus, qui est encore plus fun.
Hey Sylvain, on fait rentrer aux oeufs.
Yes.
Moi, je me sens mal dans ce temps-là. Là. J'ai comme. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est au seuil de la porte, là, puis on ne le fait pas rentrer dans la salle d'attente. Fait que, continuons de parler avec Pierre aussi. Puis, mais aux oeufs, bienvenue aujourd'hui. Puis, avant qu'on rentre en onde, tu as chanté bonne fête à Sylvain en espagnol. J'aimerais ça que tu le fasses un peu. Là,
cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños.
Ça sonne bien. Hein?
cumpleaños feliz.
Ah, ouais, tant que tu continues à jouer au baseball, Pierre, tu es d'accord avec moi. Tant que tu joues au baseball ou tu es impliqué, ça rajeunit toujours. Tu ne te rends jamais à ton âge.
Hey, Sylvain, pour ta fête, là, on avait reçu une question de lecteur. Puis j'étais comme, ah, on ne peut pas vraiment poser ça à Pierre. Mais oh, regarde, c'est ta fête, Sylvain. Je pense que tu peux y aller. Là. Tu sais, quand tu parlais de.
Oui, en fait, la personne voulait savoir, parce que bon, tu as côtoyé Jeffrey Lauria et David Sampson avec les Expos, tu as fait le saut avec les Marlins. Quel genre de personne c'était? C'était ça la question.
Puis,
tous les Québécois ont eu l'impression d'être floués par eux, mais tu sais, est-ce qu'on a eu raison ou pas?
Ben, je ne sais pas pour les Québécois, là, parce que je ne sais pas dans leur tête, au point de vue de l'équipe des Expos, ce qui s'est passé avec l'administration, tu sais, tout le dossier des Expos, mais moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème avec Jeffrey Lauria ou David Sampson. Ils m'ont toujours bien traité. Et puis, comme je le dis souvent, David Sampson, encore aujourd'hui, quand je lui parle, puis parce qu'on communique encore ensemble, il me parle toujours en français.
Ah, oui?
Ouais, il me parle toujours en français. Il commence toujours la discussion en français. Et, tu sais, j'aimerais ça pouvoir vous dire, ah, ça a été des trous de cul, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Peut-être qu'on fait des choses qui n'était pas correct, mais
ouais.
Pour Pierre Arsenault et sa famille, j'ai jamais eu aucun problème.
Fait que toi, tu n'as pas l'impression non plus que, comme David Sampson, déteste les Québécois, c'est absolument faux.
Moi, je pense pas qu'il déteste les Québécois. Je pense que David Sampson, des fois, il est un peu agressif, tu sais, il est un peu... Il essaie de démontrer qu'il est un tough guy un peu. Mais je pense des fois, il y a des gens qui n'aiment pas son approche. Et puis, dans le milieu des affaires à Miami, c'est des gars qui n'ont pas été aimés non plus. Mais je pense que c'est plus leur approche au point de vue des gouvernements, au point de vue des compagnies, au point de vue peut-être de certains employés. Mais moi, je n'ai jamais ressenti ça de leur part. Ils ont toujours été corrects avec moi.
Ozoué, tu as été longtemps receveur, puis tu es encore receveur, tu es dans la fleur de l'âge toujours. Pierre, responsable de l'enclos des receveurs, je me demandais, Ozoué, est-ce que tu avais une question, y a-t-il un sujet par rapport au receveur, à son rôle dans l'enclos, ou une anecdote que, par rapport à quelqu'un qui avait le même rôle chez les Blue Jays, là, alors que toi-même, tu le fais un peu?
J'ai peut-être pas une question, j'ai peut-être plus un commentaire, puis je vais en jaser un petit peu avec toi, Pierre, parce que je veux que le monde du baseball québécois comprenne un petit peu comment ça fonctionne dans un bullpen des ligues majeures. Et c'est... j'ai appris à connaître les joueurs... Les lanceurs de relève, pas juste comme des joueurs de baseball, mais c'est les gars que je connaissais le plus dans l'équipe parce que tu passes tellement longtemps là, dans le bullpen, puis ils te parlent de leur vie, ils te parlent de leur maison, de leur char, de ce qu'ils ont fait, de qui ils ont affronté, qui n'ont pas affronté, des anecdotes. Et je trouve que les gars du bullpen, c'est des personnes tellement, mais tellement. Différentes au reste de l'équipe parce que, un, ils ne savent jamais quand est-ce qu'ils vont lancer. Deux, des fois, ils se faisaient appeler et il y avait 2 minutes pour se préparer. Ils n'avaient pas le droit de chialer, ils n'avaient pas le droit de rien dire, puis il fallait qu'ils viennent tout le temps avec des situations buts remplis, first and second, pas de retrait. T'sais. Je trouve que c'est les gars qu'on en parle beaucoup moins. T'sais. On parle des Vladimir Guerrero, on parle de Tatis, on parle de... Mais t'sais, c'est rare qu'on va parler d'un gars du 7e manche ou du 6e manche. T'sais, on va parler du closer. Fait que, je trouve que on enlève beaucoup de mérite à ces gars-là parce que même avant les BP, là, il faut qu'ils se lancent. Là. Les autres, ils ne savent pas s'ils peuvent se lancer fort ou pas fort. Ils ne savent pas s'ils peuvent aller faire la salle de muscu, aller lifter fort ou pas fort. Ils ne savent pas si... T'sais, Pierre, tu as parlé tantôt, là, toi qui faisais ton 8 km avant chaque game. T'sais, moi, j'allais faire les marches du terrain à chaque 2 jours t'sais, pour me garder mon bras en forme, pour aller faire ci, ça. Mais moi, je savais que c'était mon rôle à tous les jours. T'sais. Tandis que ces gars-là,
Man, c'est le graveyard, là. C'est, hey, on sait pas, vas-y, puis tu sais, sois prêt. Fait, t'sais, toi, de ton côté, Pierre, tu l'as vécu un peu plus que moi, là. Est-ce que tu serais d'accord avec ça?
Je l'ai peut-être vécu plus que toi au point de vue d'année, mais on a vécu la même chose. T'sais, on a vécu la même chose. Et puis, comme tu disais, c'est tellement vrai. Nous autres, on avait notre routine. T'sais, moi, j'allais courir, toi, tu allais faire les marches, mais on savait que quand le match était pour commencer, on savait c'était quoi notre rôle. Mais tu l'as si bien dit, les releveurs, eux, là, c'est des gars, c'est des bêtes qui ont des anxiétés. C'est des gars qui ont peur. Ils ne savent même pas, des fois, s'ils vont être avec l'équipe le lendemain. Et moi, c'est des gars que j'admire beaucoup parce que, comme tu l'as dit, quand on est enfermé là, au champ centre droit, là, au bord de la clôture, isolé de tout le monde, les premières marches, je ne sais pas si c'était comme toi avec les Blue Jays, mais je suis certain que oui, les gars vont parler de leurs problèmes avec leur famille. Ils vont parler où sont allés souper la veille avec leur chum. Les joueurs mariés vont demander aux joueurs célibataires, puis dans quel club tu es allé, t'as-tu rencontré des... toutes les conversations qui vont arriver dans un enclos des releveurs. Mais moi, ce que j'ai toujours aimé de l'enclos, c'est que le monde pense que on est juste là pour on niaise, on mange des graines de tournesol, on mange de la gomme, puis non. Oui, on va discuter, mais ça fait partie du lien qui est serré entre les releveurs et les gars qui travaillent dans l'enclos des releveurs. On est vraiment une famille, mais il y a toujours un déclic qui se fait où les joueurs là, réalisent c'est quoi leur rôle. Tu sais, le closer, lui, il sait qu'il lancera pas en cinquième manche. Le setup guy, il sait qu'il lancera pas en quatrième manche. Alors, eux se préparent différemment, mais le nouveau venu qui est en longue relève, lui, en deuxième manche, il commence à regarder le match puis savoir, oh boy, si le lanceur partant commence à avoir de la misère, moi, il faut que je sois prêt. Alors, moi, c'est toujours quelque chose que j'ai admiré des joueurs. Et puis, je pense que c'est les leçons qu'il fallait toujours apporter aux jeunes releveurs, c'est comment se préparer. Parce que tous les jeunes releveurs veulent lancer pour être prêts, mais c'est pas ça être releveur dans les lignes majeures. Être releveur dans les lignes majeures, c'est comprendre que c'est un marathon. Et puis, je pense que c'est un peu un genre d'éducation que les plus font avec les plus jeunes. Et c'est tellement particulier l'enclos des releveurs. Je pense que quelqu'un qui n'a jamais été là-dedans ne peut pas voir à quel point que ces gars-là s'aiment mutuellement et vont toujours s'entraider.
Et... Non, je suis 100% d'accord, c'est un wolf pack. Là. Ces gars-là sont ensemble.
Même nous autres, on n'était pas sur la pension des joueurs. On ne fait pas partie du syndicat des joueurs, mais on est membre entier de la famille. On est comme un membre de la famille. Et moi, j'ai toujours... Il y a beaucoup de monde qui me demande, hey, y a-t-il des gars qui étaient chiens, des gars qui n'étaient pas corrects? Tu sais, il y a des gars qui sont différents des autres, mais règle générale, je ne sais pas pour toi, je suis certain que tu n'as pas eu de problème. Tout le monde nous traite avec énormément de respect parce qu'ils réalisent qu'on est là pour les aider. Et moi, là, j'ai fait la pratique au bâton à tous les jours pendant 24 ans. Je n'ai jamais eu un frappeur qui m'a dit « Ah, t'es pas bon, va chier, fais ça. » Non, ils m'ont toujours traité avec respect parce qu'ils savaient que j'étais là pour les aider.
Je vais aller au bord de la médaille.
Si parce que tu lances sur un 10e, là, on va se le dire.
Je vais même aller...
Ça prend du temps avant que j'arrive là.
Je vais même aller de l'autre bord de la médaille avec ce que tu viens de dire. Pierre, c'est en tout le temps que je l'ai fait aussi, il n'y a pas une fois, et je vais le dire, les gars, je vais le répéter, là, il n'y a pas une fois qu'il n'y a pas un joueur qui ne m'a pas dit merci. Lorsque je catchais un pen ou lorsque je lançais une pratique au bâton. Puis là, je vous parle que, tu sais, toi, tu as eu là, des Miguel Cabrera, des Edgar Renteria, tu sais, t'en as eu là.
Aussi, t'en as eu des nouveaux noms.
Tu sais, là, moi, j'ai eu des All-Stars, des gars qui ont gagné des MVP, puis il n'y a pas une fois, les gars, pas une, tu sais, qui m'ont pas dit merci. Ces gars-là sont, puis tu sais, tu parlais dans le pen, là, il y avait des gars, là, il y avait des caractères complètement différents, puis... moi, ce qui m'a marqué, c'est lorsque, un exemple, tu sais, on avait un petit pen, un petit spotting, whatever. Les gars venaient me voir après, là, puis le pitching coach était pas là, ils venaient me voir après. Hey, man, how was my curveball? Like, seriously. Tu sais, les gars, ils étaient un petit peu, c'est pas trop bien. Aujourd'hui, ils étaient comme un. Je pense que, tu sais, il y avait moins de spin que d'habitude, tu sais. Les gars nous faisaient assez confiance pour pas que le coach soit là. Tu sais, le bullpen catcher. Pas le coach, là, le bullpen catcher. Hey, man, how was my stuff today? tu sais, moi, je n'allais pas y mentir, je n'allais pas faire « I was very good », tu sais, puis que le lendemain, ça n'aille lancer ça, puis ça ne marche pas, tu sais. Ça aussi, j'ai apprécié ça d'eux autres qui étaient capables, tu sais, de… Comme Pierre parle, on avait un lien qu'il n'y avait pas nécessairement avec le pitching coach ou avec le bullpen coach non plus. Alors, ça aussi, tu sais, des fois, quand je lançais mon BP, là, je savais, je lançais le deuxième groupe, là, puis tu avais, je ne sais pas, moi… et Darwin Barney venait me voir et me disait, hey man, I want to work on outside, so just throw me outside today. Fait que je savais que lui, il fallait que je lance juste outside. Tu sais, on pouvait avoir des petites affaires comme ça avec les joueurs que même si le monde pensait que c'était des trous de cul, là, comme on dit là, ici et ça, j'ai vraiment pas là, senti ça ou vécu ça parce qu'ils savent qu'on est, dans un rôle de soutien. Tu sais, on est juste là pour les aider. Fait qu'ils savent que tout ce qu'ils vont nous demander, on va essayer de le faire du mieux qu'on peut. T'sais. On n'était pas là, nous autres, là, pour jouer ou pour faire des millions. On était là juste pour les aider. Alors, les joueurs étaient toujours, toujours très reconnaissants de ce côté-là.
Tu dis l'importance de dire merci pour les catchers dans l'enclos de relève aussi. Tu n'as même pas besoin de monter dans le baseball majeur. Là. Moi, dans les As de Schlaga, quand Sylvain il me disait « viens-tu me catcher un bullpen? » Puis j'y allais. Il avait besoin de me dire merci après parce que la prochaine fois, il allait attendre longtemps.
Nous autres, on a un
receveur. C'est super intéressant, tu sais, le côté des releveurs. Moi, il y avait deux points que je voulais juste glisser un peu. Tu sais, c'est des constatations que le monde ne pense pas toujours, mais tu sais, le nombre de fois qu'il y a des releveurs qui s'échauffent et qui ne vont pas lancer, là, tu sais, on dirait que les amateurs de baseball ne sont pas tous sensibles à ça. T'sais. Il y a des fois, là, puis tu sais, il faut gérer ça aussi, là, parce que, tu sais, il y a des gars, là, c'est fatigant, là, tu sais, ils vont s'échauffer, ils n'embarqueront pas cette game-là, mais peut-être que le lendemain, ils ne seront pas disponibles pour lancer parce qu'ils ont dû s'échauffer puis faire beaucoup de pitch, tu sais. Puis l'autre truc, tu sais, je pense pas que c'est aussi pire que ça, mais tu sais, c'est un peu. Je veux juste souligner le rôle un peu ingrat du releveur, tu sais. Surtout les closers, tu sais. On dirait que quand ils closent la game, c'est parce qu'ils ont fait la job, puis on parle de eux, mettons, qui ont eu un sabotage. Puis ça, on l'a vu plein de fois dans les séries, tu sais. Mais je trouve que la comparaison à ça, des fois, c'est le botteur au football, tu sais. Que si le kick de 3 points, ben, il a fait sa job, puis tu sais, s'il l'a manqué. Ben, il passe pour un demeuré, là, tu sais. Fait que je trouve que les releveurs méritent plus de respect.
Absolument. Je veux dire, les releveurs, c'est un rôle ingrat, mais ils réalisent c'est quoi leur rôle aussi. Tu sais, ils réalisent que souvent, ils vont connaître une mauvaise saison, puis ils vont aller ailleurs. Tu sais, c'est quasiment les vagabonds du sport professionnel. Tu sais, un peu comme les batteurs, ils vont changer d'équipe souvent. Mais non, tu parlais des releveurs tantôt. Nous autres, avec l'équipe Québec, on a Jorge Gutiérrez, qui est notre troisième receveur. Et je me mets tellement dans sa peau parce que le jeune, là, c'est un gars qui est incroyable. Il est toujours dans l'enclos. Puis toi, Josué, tu vas te souvenir de ça, puis tu l'as fait comme moi. Tu sais, des long tosses à tous les jours avec 3-4 lanceurs, des flat grounds. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi des flat ground? C'est quand tu es dans le champ extérieur, puis faut s'accroupir pendant 10 minutes, puis tu vas avoir 5 lanceurs qui vont passer un après l'autre, puis ils vont tous pratiquer leur lancer. Là, après ça, tu as le match, puis après ça, faut que tu lances ta pratique au bâton. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont impliquées comme receveur dans l'enclos et comme receveur réserviste, et qui est ingrat, ça aussi. Mais. Josué l'a dit tellement bien, quand ils te disent merci, on dirait que t'oublies que t'as mal aux genoux, que t'as mal aux bras, ou que t'as eu chaud toute la journée. Juste le fait de dire merci, c'est un soulagement incroyable pour tout le monde. Et puis, c'est une confrérie qu'on peut partager ensemble. Et puis, toi, t'as eu la chance dans les séries de vivre c'est quoi l'émotion. Et vraiment, là, les émotions, les montagnes russes, quand tu gagnes, quand tu perds au mois de septembre, maudit que c'est difficile. Quand tu retournes à la maison le soir, là, puis tu viens de perdre, puis là, tu regardes le classement, puis tu dis, oh, Colin, ça se peut pas. Puis là, le lendemain, t'en gagnes une ou deux d'affilée, puis là, tout va bien. C'est très, très, très difficile à gérer parce qu'on est des gars d'émotions. Et puis, Il n'y a pas de médaille pour ceux qui finissent deuxième. T'sais, c'est pas on va te donner un petit trophée parce que vous n'avez pas gagné. Non, il n'y a pas de
trophée. Oui, tu ne veux pas ce trophée-là.
Non, puis si tu perds, il y a toujours l'option que peut-être qu'on va te remplacer l'année prochaine. Fait que c'est, ouais. C'est pas un monde qui est facile, mais c'est un monde que tu as de l'adrénaline. C'est pour ça qu'on est encore là-dedans. C'est pour ça que tu vis là-dedans. Et puis c'est pour ça qu'on en parle parce qu'on adore le sport.
J'essaie d'enseigner, Pierre, beaucoup, mais j'essaie, c'est pas vrai que j'essaie, que je le fais avec nos jeunes ici au Sport-Études, c'est qu'ils comprennent à quel point c'est important justement de dire merci aux receveurs ou aux lanceurs qui lancent les pratiques au bâton, parce que ceux qui n'ont jamais catché, ils savent pas à quel point c'est difficile. Puis tu sais, des fois, on avait des lanceurs, là, je m'en rappelle encore très bien, qui est le fameux flat ground. Le flat ground est fait pour essayer de nouveaux lancers, pour pratiquer des nouveaux lancers. Là. La curveball puis la slider à terre, j'en ai vu, là, parce que c'est là qu'ils essayent. Puis c'est là qu'ils essayent de spinner, puis c'est là qu'ils... C'était pas toujours le fun. Puis tu sais, t'étais comme « Oh, no, another one! » Puis là, tu vois le lanceur « Oh, excuse me! I'm sorry! » Hey, c'est chill. Moi, dans ma tête, je suis comme « Il lance là dans le milieu. » Mais tu sais, tu ne fais pas pareil. Là. T'es comme « OK, here we go, on recommence, tu sais. »
Crime,
j'ai
eu un qui t'a fait mal,
moi,
là, puis là,
moi, j'ai eu
un semblant
qu'elle
t'a pas fait mal. Là,
mais
puis,
non!
Là, t'espères juste qu'elle renvoie pas à la même place.
Mais non, tu sais, t'es là comme ça fait deux semaines qu'il essaye le même calice de bitch, pas capable de... OK, non, hey, here we go, let's do it again! Moi, j'ai eu deux gauchers, là, qu'ils m'ont magané pas à peu près, puis le premier, c'est Randy Johnson, qui a été arrivé avec les expos, il avait aucune idée comment lancer une prise. Pas de sa faute, là. Et il m'a frappé partout sur le corps. Puis le deuxième, c'était Andrew Miller, qui joue avec les Cards de Saint-Louis, que j'adore. Andrew Miller, là, c'est une belle... Lui, là, il maganait. Il faisait rebondir des sliders à 42 pieds. Je recevais sur l'épaule. C'était un des seuls gars que je mettais un plastron parce que je savais que j'étais pour être dans le trou, puis j'en mettais pas un. Mais à chaque fois, comme tu viens de dire, il venait me voir. Je m'excuse. Non, je disais, c'est correct. Puis aujourd'hui, il est capable de lancer des brises. Les Red Sox l'ont pris de la bonne façon. Alors, tu sais, quand tu vois des gars se développer, puis Randy Johnson, je pense qu'il a été popé dans sa carrière.
C'est correct.
Tu vois des gars se développer, là, des Pedro Martinez qui, au début de sa carrière, frappait tout le monde. Il a appris comment contrôler sa balle rapide. Tu sais, c'est le fun de voir des gars se développer. Puis tu te dis, maudit, j'ai fait partie de ça. J'ai aidé à... Oui, j'ai peut-être eu des bleus, mais ça valait la peine.
Randy Johnson, il t'a magané, là, mais je suis sûr qu'il t'a moins magané qu'un certain oiseau qui a pu son âme. J'en avais parlé de
Craig Counsell,
qui coach des Brewers. Et ouais. Il était au troisième but quand c'est arrivé, puis on avait parlé de ça, on avait tellement ri, là, mais... Puis Pierre, t'en es un bon exemple des anecdotes de baseball, là, on pourrait s'en raconter encore plein. Pour de vrai, Pierre, va falloir te réinviter, parce que
c'est
trop agréable.
On se fait un spécial anecdote.
Un bon communicateur.
Moi, je suis pour ça. J'adore ça, parce que, tu sais, oui, c'est le fun des anecdotes, Pierre, mais moi, ce que j'aime, c'est que les personnes qui vont écouter, tu sais, le podcast, puis qui vont écouter ce qu'on parle, c'est... Ils vont comprendre qu'il faut commencer beaucoup de choses à très bas âge. Tu sais, juste de dire merci, là, les gars, là, je le sais que je le dis souvent. Moi, je le dis beaucoup à mon sport-études. Puis même, il y a des jeunes qui rient, même avec des coachs que je coach, ils rient de moi. Puis ils sont comme, ah, encore toi, Pelli, là, avec ça. Je dis, les gars, tu dis pas merci, là. Je vais vous le dire, les gars, tu dis pas merci une fois. Tous les autres gars vont te le dire, what the fuck, man? Ah ouais, là. Tu sais, ils vont te le dire, ils vont te faire comprendre que, hey, on a 162 matchs, là.
Ouais.
Le petit kid, là, lui, son bras, là, il le fait pour toi, là. Il le fait pas pour lui, là. Tu sais, si j'avais été payé, là, à une pièce, la balle lancée, là, oh my God!
Ouais. On serait sur une pièce,
tu sais,
on est capable. Rodriguez, c'était comme ça. Pudge Rodriguez qui gagnait 10 millions de dollars avec nous autres, à tous les jours, il ramassait toujours les balles après le BP. Disait toujours merci. Tu sais, Mike Lowell, tous les gros noms, là, ils ramassaient toujours, hein, Josué, les gars ramassent les balles. Il disait tout le temps, non, c'est pas trop de ramasser les balles.
Don't do it.
Tu ramasses les balles, puis c'est pour ça, quand je coachais l'équipe de mon gars l'année passée dans le Pee-Wee 2A au Lac-Saint-Louis, s'il y en avait un, on ne sait pas les balles, et une misère qu'il y avait des. Il y avait des problèmes.
Je suis tellement d'accord avec ça parce que ouais. On faisait tout ça pour eux. Puis si on est capable de créer des joueurs de baseball qui ne vont pas juste être bons au baseball, mais qui vont comprendre aussi la game, qui vont comprendre comment ça fonctionne dans les majeures, mais ils n'auront plus à vivre ça parce que c'est plate que tu te fasses enlever d'une équipe, que tu te fasses couper parce que, bon, t'es un gars qui ramasse pas, t'es un gars qui dit pas merci, t'es un gars qui est pas respectueux. T'sais, tu vas être là pour les mauvaises raisons et je le prends tout le temps comme exemple, mais regardez Jaciel Puig. C'est un gars qui est un five-tool guy. Il court, il lance, il pourrait faire 20 millions par année des majeurs puis il est pas là parce qu'il y a une attitude qui n'a fait aucun sens. Donc, pour moi, et je suis sûr que pour Pierre, c'est la même chose, c'est très important pour nos jeunes qu'ils sachent ça, d'apprendre ça, de savoir que ce n'est pas acquis. Là. C'est quelque chose qu'on doit faire à tous les jours. Et même à bas âge, il faut tout de suite commencer à respecter nos catchers parce que c'est pas le fun, là. C'est pas facile, les gars. Là. Quand je catchais Aaron Loop dans le bullpen, là, je faisais ça de même avant là, parce que my God, c'était pas facile. Fait que j'imagine comment c'est pour le frapper. Là, ça doit être encore plus tough. Fait que, j'ai eu la chance de catcher Harry Dickey, je l'ai fait une fois, je lui ai dit plus jamais. Là. Non, pour vrai, j'avais 2-3 bleus dans un genou, il m'avait pogné, j'avais jamais catché ça, puis lui, il a lancé fort, ça l'a encore. J'ai dit, Dickey, man, like this is too hard, bro. Like, this is man, lance-moi des rapides, là. On va chercher Tori, là. C'est lui qui est capable de le faire. T'sais, c'était tough, là, pour vrai, les gars. Pour vrai, c'était tough.
Harry Dickey, lui, là, tu catch, là, tu dis, OK, elle va frapper mon épaule droite. Ah, non, ma gauche. Ah, non, ma droite.
Oh, non, on va toucher à terre. Elle ne bougera pas. Elle va bouger. Non, ouais. T'sais, fait que tu sais pas trop. Fait que, tu sais, je veux juste. Je le sais, je le répète, là, mais c'est super important, les gars, là, d'avoir ce respect-là et d'avoir cette politesse-là parce que, comme Pierre le dit si bien, c'est partout dans les majeures, alors ça va dès que tu commences à jouer.
Ben Pierre, là, messieurs, en prenant les bons mots de Josué, Pierre, dire que j'ai beaucoup de respect pour toi, puis je te dis merci d'être venu aujourd'hui. Mon podcast est plus rempli.
Ça a été beaucoup plus facile de catcher Randy Johnson, je peux vous dire ça.
Donc, le message est clair là, pour les jeunes joueurs qui nous écoutent, là. Remerciez vos coachs, remerciez vos catchers. Puis les parents qui nous écoutent, passez le message à vos jeunes, c'est important. Puis c'est la moindre des choses. Et Pierre, ben nous, comme Ben vient de le faire, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment apprécié.
Ça m'a fait plaisir de parler baseball avec vous autres. Très le fun.
Merci. Merci, Pierre. J'ai hâte de te voir là, quand vous revenez.
Oui.
Yes. Merci, bye. Pierre. Bonne fin de saison. Bye bye. Alors, messieurs, on va continuer avec Ben. Moi, il y a une petite chanson là, que ça fait longtemps que je n'ai pas entendue.
Ouais, j'ai déjà chanté « Bonne fête » aujourd'hui, mais on peut y aller.
C'est ma fête, il faut que tu la fasses.
Pour tous les amis qui ont répondu à l'appel de Jésus, chronique Josué Pelé.
Yeah! All right. Et aujourd'hui, les gars, là, je suis tellement content parce que j'ai envie de parler d'Abraham Taureau. Abraham Taureau, yes. C'est un de mes amis. Je connais très bien sa famille. Écoute, on a passé des Noëls ensemble, de jour de l'an ensemble. Nos familles se connaissent depuis quand même très longtemps. Et bon, il vient d'être rappelé, ça fait pas longtemps. Il a frappé à 4 coups sûrs, là, justement, avant hier. Il y en a 2 hier. On le sait que Bregman est blessé. Pas juste un petit peu, là. Je pense que ça va prendre au moins, je pense, 4 à 6 semaines minimum. Alors, c'est sa chance. C'est sa chance de je dirais pas de prendre la place à Bregman, parce que les gars, ça va être très difficile de prendre la place à Bregman. Mm-hmm. Cependant, il peut se tailler un poste comme réserviste. Ça peut être un poste comme un gars qui va donner un break à tout le monde. T'sais, il avait joué au first, il a joué dans le champ pendant le spring training. Alors, je pense que pour Abraham, là, ça va être un test. Je le sais que Garcia est là aussi. C'est un joueur qui avait été là dans le Rule 5. Et bon, Dusty Baker, je pense que lui, son but, c'est de gagner. Là. C'est pas de faire plaisir à Taureau ni à Garcia. Alors,
on avait préféré Garcia à Taureau au début de la saison, en fait.
Ouais. Ben, exactement, parce que côté logistique, je pense que c'était mieux, dans le sens que tu perds pas ton Rule 5. Taureau avait pas eu un spring training quand même bon. Donc, tu l'envoies en 3, il y a quand même plus de répétition là, mais là, ils en ont besoin de lui. Donc, moi, je pense
parce que c'est... Parce qu'en fait, le Rule 5, juste pour expliquer aux gens, là, c'est que si il garde pas Garcia puis qu'il garde Taureau, mais Garcia, il retourne à son ancienne équipe.
Exactement.
Comme si donc, le règlement. Donc, qui est un peu comme un ballottage, mais
exact,
avec droit de regard à l'ancienne équipe.
Exact. Et donc, avec les Astros qui gagnent beaucoup et qui ont une chance justement là, de participer aux séries éliminatoires, moi, ce que je me demande, et je vous pose la question, les gars, est-ce que la direction des Astros croit vraiment que l'équipe peut se rendre loin dans les séries? Est-ce qu'ils peuvent battre les grosses équipes? Si oui, c'est là que je me demande, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Abraham, dans le sens que les Astros ont encore besoin d'aide. On s'entend, s'ils veulent se rendre plus loin, comme toutes les équipes. Est-ce que Abraham serait une bonne monnaie d'échange si jamais les Astros veulent aller chercher là, de l'aide? Alors, je pense que pour Abraham, c'est un win-win situation.
Exact.
Donc, il y a la chance de se faire valoir, il y a la chance de jouer quand même pas mal à tous les jours. Et il y a la chance aussi de se faire valoir aux 29 autres équipes. Des majeurs, parce que je pense que, bon, Correa, il y a une bonne saison cette année. Est-ce que les Astros vont lui offrir un contrat? Je pense que oui. Bregman est là pour longtemps. Altuve est là pour longtemps. Donc, est-ce que Abraham, un échange lui ferait du bien? Je ne vais pas dire oui ou non. Là. Ça va être aux Astros de voir. Mais vous deux, qu'est-ce que vous pensez de ça?
Ben, moi, je pense qu'Abraham, en partant, a besoin de jouer à tous les jours. Au début de la saison, on l'a rappelé, là, la première fois, il frappait pour 83, mais je veux dire, il jouait sporadiquement. Ouais, on l'envoyait dans le 3A, il frappait pour 352 parce qu'il jouait à tous les jours. Et là, boum, on le rappelle, il joue à tous les jours. Il a monté sa moyenne à 348. Là, il est 7-11 depuis qu'il est revenu avec un circuit 5 pp. Je veux dire, je pense que c'est le type de joueur qui a besoin de jouer. Et clairement, devant lui, à Houston, ben, il n'y a pas tant de place que ça pour jouer à tous les jours. Fait que moi, je pense qu'il devrait se servir de la situation actuelle pour justement faire comme montrer de quoi il est capable. Et peut-être que ça va servir les Astros, comme tu le dis, pour aller chercher ce dont ils ont besoin. Puis Abraham pourrait tomber dans une équipe où on va pouvoir l'utiliser puis il va pouvoir se développer. Moi, je pense que ça serait positif pour lui.
C'est dur quand on parle d'Abraham parce qu'on a quand même il y a l'émotion qui est là aussi. On l'aime tous, on veut tous son bien. Là, actuellement, c'est le seul Québécois. Parce que nous, puis on l'a vu en début de saison avec Douglas Thoreau, son frère qui était notre invité. Nous, on c'est sûr qu'on se dit, OK, il est pogné dans la hiérarchie des Astros, il est là en arrière. Mais la réalité, là, c'est que oui, Abraham est un jeune prometteur, puis on le voit super bien actuellement. Mais tu sais, des joueurs comme Abraham Thoreau, est-ce qu'il y en a plusieurs, tu sais? Parce que nous autres, tu sais, il fait 4 en 5, là, tu sais. C'est ouais. Incroyable, là, tu sais. Je veux dire, l'émotion embarque, c'est comme, OK, pour de vrai, il est juste malchanceux, Bregman est là, mettez-le dans n'importe quel autre club du baseball majeur, c'est sûr que c'est lui le troisième but régulier.
Absolument pas, ça. Exact, exact.
Ça, la réalité, c'est pas ça, tu sais.
Exact.
Robel Garcia, là, ben, il y en a eu un match aussi là, de 3 coups sûrs dernièrement, tu sais, aussi. T'sais, ben ça, tu sais, l'émotion n'embarque pas dans ce temps-là, tu sais. Puis, je dis ça, puis je dis rien contre Abraham, tu sais. Mais Abraham, actuellement, oui, c'est une monnaie d'échange. Oui, il peut faire partie d'un deal pour aller chercher un vétéran parmi quelques prospects que Roger Brulotte s'amuse des fois à parler de suspects. Tu sais, Abraham Thoreau a dépassé, je pense, le stade-là de
ben oui.
Espoir, parce que, tu sais, c'est pas un joueur de 2A. Tu sais, les prospects, ils suspectent.
Non, non, non.
C'est des joueurs de juste de 2A qu'on pense peut-être. Tu sais, lui, il a déjà montré qu'il est capable de faire la job, mais comme Douglas le dit si bien, que lui, son cœur est encore plus impliqué, mais comme Sylvain l'a répété, c'est un gars qui a peut-être besoin de jouer souvent. Puis oui, c'est tough, tu sais, quand tu as un rôle, tu as un at-bat contre un lanceur une fois de temps en temps, puis que, tu sais, ça,
c'est là mon point qu'il a la chance, justement, de le prouver, tu sais. C'est là qu'il a sa chance de voir quel joueur que je suis, tu sais, qui je suis dans les majeurs exactement, tu sais. Parce que tu peux pas savoir t'es qui jusqu'à temps que t'aies pas joué quand même à tous les jours, tu sais, jouer 4 jours sur 6, 5 jours sur 7. C'est là qu'on peut voir exactement quel genre de joueur que tu vas être, tu sais, parce que tu le dis si bien, Benoît, là, des Abraham Taureau, je ne dis pas qu'il en pleut, mais il y en a. Il est capable de jouer un petit peu partout. C'est ce qui l'aide dans le nouveau baseball. T'sais. Maintenant, là, quand tu es sur le banc, là, ça se peut que tu ne sois pas sur le banc pendant longtemps. T'sais, des pinch hits qu'il y en a souvent. On va t'emmener un gaucher, un droitier. Lui, il frappe des deux côtés. Donc, je pense que ça va être à lui de saisir sa chance. Puis, t'sais, peut-être aussi, là, Ben, là, que si il joue super bien, mais ça va peut-être forcer la main des Astros à faire bon, on va sauver de l'argent un peu. On va laisser partir Correa. Puis, on va garder Bregman à l'arrêt court.
Alors, ouais, ça puis, juste pour que tu comprennes bien ce que je voulais dire tantôt, là, même moi, là, ce serait mon souhait le plus cher là, que là, il y ait une super bonne séquence, que les Astros fassent une transaction pour aller chercher un gros lanceur, mettons, pour les playoffs, parce que là, ils sont premiers de leur section devant les A's, d'ailleurs. Puis que Toro, dans une nouvelle réalité, prouve qu'il est capable d'être un joueur régulier, je souhaite que ça, tu sais, puis je pense que il a le potentiel pour le faire, tu sais, je veux dire, il a été très, très bon, là, tu sais, partout
mais,
où il est passé,
ouais,
mais tu sais,
ouais, mais pour qu'il ça arrive,
il est encore
en apprentissage, mais pour que ça l'arrive, Ben, là, encore une fois, pour que ça l'arrive, il faut qu'il l'ait prouvé. Donc, chose qu'il n'a pas faite encore dans les majeurs, parce que c'est pas en 7 en 11 que tu as prouvé que tu es capable de jouer les majeurs. Écoute, Arenado était 0 en 20 là, jusqu'avant hier. Là. Alors, tu sais, tout est possible. Là, tout est. Mais je voulais juste comme amener là, à quel point qu'il y a une très grosse chance qui arrive en ce moment. Parce que justement, les Astros, il faut qu'ils gagnent, mais en fait, il faut qu'ils continuent de gagner. Et on va voir en même temps si les Astros ont besoin là, d'aide. Mais je le sais que Dusty Baker l'aime beaucoup. Je le sais qu'il est capable de jouer un petit peu partout. Donc, j'espère qu'il va continuer à avoir sa chance et qu'il va continuer. Parce que peu importe où est-ce qu'il va jouer, tout ce qu'on veut, là, c'est qu'il performe et qu'il continue à nous représenter bien comme il faut.
Mais c'est incroyable. Il faut être fort quand même mentalement. Là. Lui, il le sait. Là, il vient d'être appelé. C'est sa chance. Il faut qu'il soit clutch. Puis tout. Puis, tu sais, honnêtement, puis j'y donne tout ce qu'il a fait, là, comme dans la dernière semaine, là, j'y donne, puis ce que j'aime, c'est sa passion, tu sais, puis il sort des blocs, là, tu sais, un coup à l'avant-champ, là, tu sais, il savait que ça allait être serré, là, tu sais, il a pas ralenti, là, proche du premier, là, tu sais, il était comme, oui, tu sais, ce que je dis, c'est, j'enlève rien, puis je suis content, tu sais, sa soirée de 4 coups sûrs, là, il y en a eu un ou deux, tu sais, que c'était pas genre des hits francs, tu sais, mais t'embarques ses bases, t'es là. 4-5, ça donne confiance. Puis son plan de match, qui est super important, d'avoir un plan contre chaque lanceur, Abraham, c'est super important pour lui. Puis, tu sais, il étudie ça avant les matchs. Puis, c'est tel lanceur, tu sais.
Ce qui va l'aider aussi, Ben, là, tu t'en parlais tantôt là, à Sylvain, c'est qu'il sait maintenant qu'il va jouer. Donc, avoir un 0 en 4 est beaucoup moins grave mentalement que lorsque tu le sais que t'es un gars de banc puis t'es un 0 en 4, ton coach fait comme « OK, man, tu vas rejouer la semaine prochaine. »
Tandis que encore quand... là, Osoué, je suis d'accord, mais il y a 0 en 4, là, mais Garcia, il est encore là, puis ça se peut que ça ait lui qui est, t'sais.
Je comprends, mais Garcia ne jouera pas une semaine de suite comme Bregman. Tu me suis, ça va être une bataille à deux.
Ce qui est bon dans l'histoire, là, puis ce qui est bon pour Toro, c'est qu'en plus de Bregman, c'est Aledmys Diaz. C'était blessé au mois de mai, lui. Fait que c'est là que ça ouvre la porte aussi.
Exactement. Alors, je vais suivre ça de très proche et on va continuer là, à cheer pour lui.
Yes. Hey, messieurs, ça, on a déjà largement dépassé le temps qu'on se donne d'habitude. Mais tu voulais parler aussi, Joshua, on va peut-être faire ça en 4-5 minutes là, sur les
bouquets.
George Springer devrait revenir. Là, tu voulais nous parler un peu de la formation offensive des Jays.
Exactement.
La formation partante pour les Blue Jays de Toronto, selon Osoué Pelé, le premier frappeur, le first hitter.
Simeon au deuxième but, Bo Bichette à l'arrêt court, Vlad premier but, Teoscar Hernandez dans droite, Springer dans le centre, Randall Grichuk dans gauche, ou le contraire, peu importe ce que Montoyo va vouloir faire, Biggio au troisième but, et Gurriel DH. Et là, Gurriel, ben, au pire, tu le fais mettre dans le champ un petit peu là, pour tourner avec les autres gars. Catcher, on lance une pièce de monnaie.
Ouais, c'est ça.
N'importe qui.
Il y en a deux de blessés, puis les deux autres, c'est ordinaire.
Ordinaire. Fait que, tu sais, Sincèrement, je pense que les Jays, s'ils veulent continuer ou peut-être même faire les séries, bon, premièrement, il va falloir qu'ils cherchent des lanceurs. Leur bullpen, il y a 8 gars, ben, de releveurs, ils ont 8 gars blessés. Là,
Mary
Weather
revient, là.
Ouais,
oui, mais c'est au-delà de ça là, en ce moment. Là. C'est hier, là, exemple, là, t'as Ryu qui lance un match incroyable.
Incroyable.
Une chance d'attaque a fait 7 points parce que Thornton va en accorder 3. Si le match est moindrement serré, on perd encore une fois. Donc, les rebonds, c'est vraiment...
Il y a tellement un bon début de saison, puis ça marche plus.
Est-ce que, là, ma question pour vous est, est-ce qu'on échange un Gourriel pour aller chercher de l'aide? Tu sais, qu'est-ce qu'il va faire Ross Atkins? Est-ce qu'il croit vraiment, croyez-vous vraiment que les Jays peuvent faire des séries avec le line-up qu'ils ont 100%? Est-ce qu'ils peuvent le faire avec les bullpen qui ont aucune chance?
Non.
Aucune chance.
Si vous sauf que des releveurs, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher dans le marché. Je veux dire, quand tu es proche de la date limite des transactions, tu sais, est-ce que tu as besoin d'échanger un Gourriel pour aller te renforcer avec un ou deux releveurs, je ne sais pas. Gourriel, c'est peut-être un trade que tu fais dans l'off-season. Tu sais.
Ben, mais c'est pour ça que je vous le demande. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je ne crois pas qu'avec les releveurs qu'on a en ce moment, les Jays peuvent aller nulle part. Là, tu sais, on jouait contre les Orioles de Baltimore puis on avait toute la misère du monde pour pouvoir leur faire arrêter de frapper. Tu sais, il va arriver quoi contre les Yankees, contre les Red Sox? T'sais, donc, c'est des blessés, là, il y a beaucoup de blessés, mais est-ce qu'on est prêt à échanger là, un de nos joueurs? Parce que sincèrement, les gars, là, quand tu as Biggio qui frappe 8 là, ou que Gourriel qui frappe 9, là, on a peur de personne. Là,
est-ce que la solution, ça serait-tu Nate Pearson dans le 3, l'amener comme en relève jusqu'à la fin de la saison? Il y a eu des blessures cette saison, peut-être que pour le limiter en termes de manches lancées, tout ça, est-ce que ça serait... une solution, non?
Ben si ça serait une solution si on l'entraîne comme ça dans les mineurs. Parce que,
non, en ce moment, il est partant dans les mineurs.
Exact, parce que Pearson, là, on va se le dire avec les gars, là, ça va être un très bon lanceur dans les majeurs.
C'est le futur numéro un là, des Jays.
Exactement. Donc, est-ce que tu veux vraiment faire ça? Puis, moi, sincèrement, je ne crois pas. Je crois que ça va être un gars qui va être très, très bon dans le futur. T'sais. Cependant, t'sais, si on regarde, on l'a fait avec Aaron Sanchez quand il est arrivé avec les Jays. Là, il lançait juste la 8e manche, puis c'était un gars qui lançait des pilules. Là. Alors, ça va être aux Jays de regarder ça. Mais l'historique de blessure, est-ce que c'est un gars qui peut lancer 2 jours de suite? Il faudrait regarder dans les mineurs. Il faudrait l'essayer. C'est difficile. C'est plus facile pour un releveur de devenir partant qu'un partant de revenir releveur. Ouais, parce qu'il faut que tu lances à tous les jours. Ton bras doit s'habituer.
Je vais vous le dire, moi, qu'est-ce qu'on va faire, là, puis ça va boucler la boucle de cette chronique-là. Là. Les Astros, là, ils ont plusieurs bons releveurs.
Non, plein.
Oh, là, je te vois venir, là.
Abraham Toro à Toronto. contre un gros.
Mais tu vas le faire, il ne pourra pas jouer à tous les jours.
Non, mais ça me fait tellement rire, là, ça, genre les gérants d'estrade qui font des échanges. Là. Ah, moi, j'ai changé tel gars contre tel gars. Mais pour de vrai, de parler de 2 échanges, là, puis tu sais, il n'y a aucune chance parce que, je veux dire, les Astros puis les Blue Jays, il n'y a aucune chance, là. Mais ce serait-tu écœurant?
Aucune chance. Il faut se le dire.
En plus, Toro, il frappe des gros circuits à Toronto. Underlander en a besoin.
Croyez-moi, les gars, que si Toro s'appelait John Smith, là, on n'en parlerait même pas. T'sais, parce que à ce jour, là, comme tu as dit tantôt, Benoît, t'sais, on l'aime beaucoup. Là, mais à ce jour, c'est un joueur comme un autre qui est jeune et qui commence à avoir sa chance dans les majeures. Et on va espérer que ça va continuer pour lui. Mais j'ai hâte de continuer à voir là, comment ça va se dérouler. Là, parce que je pense que dans le prochain mois, on va commencer à avoir là, des échanges, surtout pour des gars dans le bullpen. Fait que j'ai hâte de voir si Ross Atkins va sacrifier un de ses joueurs. Mais je ne pense pas. Là, les Blue Jays sont quand même assez bien dotés là, dans les mineurs, là, côté prospect. Donc, s'ils veulent vraiment faire un gros coup, là, ils vont aller utiliser un petit peu là, leur gars dans les mineurs.
Chose certaine, Ross Atkins ne doit pas attendre d'être trop proche du 30 juillet parce que là, les Jays commencent à perdre du terrain tranquillement. Puis, ça va vite. Là. Les Rays, ils en arrachent, là, mais je veux dire, le Red Sox continue à gagner. Les Yankees ont recommencé à gagner. Et là, les Blue Jays ne peuvent pas échapper des matchs comme on a vu dans les dernières semaines. Tu mènes 5 à 1, puis tu finis par perdre 8 à 5. Là.
Surtout contre les Orioles, puis tu sais, les Red Sox. Exact. Chris Sale va s'en venir dans pas long aussi. Alors, je pense que Ross Atkins là, doit commencer à bouger un peu. Ce n'est pas juste avec Anthony Axford là, que ça va arranger les choses. Mais au moins, on voit qu'il essaie de créer des choses au moins là, pour que ça aille mieux.
Hey, pour conclure le podcast, là, c'est jour de fête à Sylvain. Puis, tu m'as titillé là, en début de ta chronique aux Zoé là, sur les Noëls passés avec les taureaux. Là. Puis moi, j'aime ça, les informations croustillantes. Là. Fait que c'était quoi en terminant là, pour terminer ça sur une note légère, les boissons et la nourriture mangée dans ces grandes fiestas
vénézuéliennes. Ben, écoute, on c'est sûr qu'il y a beaucoup de whisky. Ça, c'est sûr. Là. Blue Label, Black Label, bouffe, c'est ayaca, arepa, empanada. Il y a de la musique, on danse. C'est ça fait du bruit. Là.
Yamila a fait de la bonne nourriture, Yamila.
De Yanira.
Yanira. Non, ça, c'est ta mère.
Ça, c'est ma mère.
Oui, mais la mère à Abraham, c'est pas
Yannick. Ah, mais oui, mais tout le monde. Mon père en fait plein aussi. Tu sais, c'est tout le monde met la main à la pâte. Là. On fait tout, on amène tout de quoi. Il y a tout le temps trop de bouffe.
Toi, ta spécialité, ouais. Du McDo?
Moi, c'est manger tout ce qu'il y avait. C'est ça, mon... Tu sais? Moi, ma spécialité, c'est manger.
Ah, c'est vrai.
Contrôle de la qualité. M'assurer que
voilà, tout le monde donner, ouais, exact,
donner des commentaires, m'assurer de dire hey, merci, c'était très bon.
Hey, merci, le encore. Respect.
Voilà. Absolument, les gars.
Excellent.
Hey, merci. Bon, ben, le mot de la fin.
Oui. Écoute. Ben là, on rit, là, mais pour de vrai, il y a des gens pour qui des fois c'est moins drôle. Donc, on vous rappelle que si vous avez besoin de parler, de jaser, le suicide n'est jamais une option. Un 866 appel. Puis en même temps, pendant qu'on est dans les bonnes causes, je voudrais souligner qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la SLA, donc une maladie qui est la maladie de Lou Gehrig. Donc, ça fit avec le baseball. Puis allez lire, j'ai fait un petit article sur Claudine Cook, qui est directrice générale de la SLA. Donc, allez lire ça sur le web, là, le site du Journal de Montréal, parce que Claudine Cook, elle a aussi travaillé de 91 à 95 avec les Expos de Montréal. Fait que, elle était aux relations communautaires, puis quand elle organise des matchs des célébrités, elle l'invite tout le temps, tu sais, les Steve Rogers, Tim Raines, Andre Dawson et tout. Fait que, clin d'œil à la SLA en même temps pour conclure ce podcast.
Merci, messieurs. Merci pour les vœux. Très apprécié. Merci beaucoup. Bonne semaine et on se remet ça bientôt.
Merci, les gars.
Oh, es-tu bon, man? Salut, les boys.
Salut, les... On sort de la maison, entrer en champ ou en avion.